Salut, c'est Riwan, on se retrouve sur la Smart Interview. À travers ces podcasts, vous retrouverez des informations concernant le sport, la santé et le bien-être. Nous échangerons avec de multiples intervenants du milieu, des professionnels mais aussi des clients. Allez, bonne écoute et on se retrouve à la fin du podcast. Salut à tous, on se retrouve pour les podcasts Smart Life. Donc, on est ensemble aujourd'hui pour un nouvel épisode. On est avec Marine. Salut Marine.
Salut Riwan et bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, on va parler des compétitions et notamment des compétitions en bikini parce que Marine en a fait. Elle en a fait plusieurs, donc ce sera l'occasion de revenir sur son expérience par rapport à ça, parler un petit peu des critères parce que je sais que voilà, parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a certaines que ça intéresse, il y en a peut-être aussi certaines qui souhaiteraient en faire une un jour, qui commencent la musculation ou qui sont déjà confirmées dans ce domaine-là. Donc ce sera toujours intéressant d'en parler et d'avoir voilà, l'expertise de quelqu'un qui l'a vécu et qui en a fait. Donc Marine aussi, bien sûr, qui est coach. Donc je vais te demander un petit peu la question que je demande à chaque début de podcast. Donc si tu peux te présenter, présenter un petit peu ton parcours sportif et aussi ton parcours, on va dire, scolaire, tes études, etc. Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver à ce métier de coach?
Bien sûr. Eh bien, écoutez, moi, ça fait donc déjà j'ai 28 ans, donc je m'approche doucement de la trentaine avec les cheveux blancs qui vont avec. À l'origine, j'ai fait des études de lettres, donc absolument pas en fait dans le milieu du sport. J'ai été jusqu'au master en lettres modernes en double cursus journalisme. Donc à l'origine, je suis spécialiste de la littérature victorienne, donc littérature anglaise entre 1850 et 1901, absolument rien à voir avec le sport. Mais en fait, le sport a toujours fait partie intégrante plus ou moins de ma vie. J'étais pas une grosse accro au sport, mais j'en ai toujours fait. C'est-à-dire que depuis que j'ai 5 ans, mes parents m'ont lancé dans les bassins en fait en natation, et j'ai toujours fait de la natation. Donc j'ai fait de la compétition pendant 12 ans. Malheureusement, après, je me suis blessée. Tu ajoutes à ça la période lycée, le début des études, je ne faisais absolument plus de sport. Et le jour de mes 20 ans, j'avais fait un anniversaire avec les amis de la fac. Et lorsque j'ai reçu en fait les photos de mon anniversaire, je ne me suis pas reconnue. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette fille? J'avais pris énormément de poids pendant ma période fac, aussi à cause d'une relation toxique. Et en fait, le jour de mes 20 ans, je me suis dit, c'est pas possible. Je ne peux pas continuer à ressembler à ça. Donc, il faut absolument que je change. Donc, je me suis lancée vraiment corps et âme dans le sport. À l'époque, j'étais en deuxième ou troisième année, je crois, de fac. Je me suis tellement lancée dans le sport que j'en ai parfois séché les cours qui ne m'intéressaient pas, parce que je m'ennuie énormément en fait en cours, ça avançait pas assez vite à mon goût. Et en fait, petit à petit, on va dire que ma passion et on va dire mon avenir ont basculé. C'est-à-dire que j'ai gardé la littérature en tant que passion et j'ai commencé à faire du sport mon métier. Donc en fait, j'ai terminé mon diplôme et ensuite j'ai entrepris de passer tous les diplômes dans le sport pour pouvoir exercer. Donc voilà, maintenant je suis diplômée dans le sport pour pouvoir encadrer tout le monde. Donc j'ai commencé en salle au début et après en one-to-one chez des particuliers. Et là, depuis l'année dernière et surtout là depuis la rentrée, je suis 100% en ligne en fait pour être extrêmement mobile avec mon travail. Et donc ça fait à peu près, donc ça fait 8 ans que je pratique la musculation de manière assez accrue. J'ai commencé les compétitions en post-Covid, donc c'était en 2021, avec ma première compétition, donc qui n'était pas des moindres puisque c'était Olympia Amateur au Portugal. Une très très grosse compétition pour le début. Si c'était à refaire, je ne commencerais pas par celle-là parce que tu es un peu un petit poisson lancé parmi les requins. Donc ça a été une expérience super enrichissante, mais également, on va dire, extrêmement perturbante parce que j'étais consciente de ne pas avoir le niveau. Et après, là, cette année, j'ai réenchaîné avec un régional à Bordeaux. Je devais faire la compétition, donc la Yamamoto Cup, qui était un pro qualifieur, là, au mois de septembre. Mais malheureusement, je me suis blessée 4 semaines avant au niveau du genou. Donc, j'ai préféré mettre fin à la prépa histoire de pas me bousiller davantage. Et bah là, généralement, je repars en prépa à partir du 16 janvier.
D'accord, ok. Et du coup, juste je reviens un petit peu sur ce que tu m'as dit avant. Donc, qu'est-ce qui a fait que pour ta première compétition, tu avais fait une compète aussi dure et aussi exigeante, du coup, avec Olympia Amateur? Est-ce que c'était avec le Covid, il y avait eu une compétition annulée? Parce que je sais que, justement, pour parler de Manon qui est dans l'équipe et qui a fait des compétitions, elle a dû commencer aussi par une grosse compétition parce que, justement, la compétition pour se qualifier, justement, pour la compétition qu'elle a fait avait été annulée, donc tout le monde avait été entre guillemets qualifié. Et est-ce que c'était un petit peu ton cas aussi?
Oui, c'est tout à fait ça. Donc, en fait, la période post-Covid a été vraiment très compliquée dans le milieu du sport, dans la mesure, en fait, où toutes les petites compétitions régionales, donc qui dépendent la plupart du temps des départements et des mairies, ont été annulées. Donc, en fait, se sont concentrés sur des gros événements. La plupart des événements étaient, bien entendu, à l'étranger, parce que nous, en France, c'est que la première année, là, en 2022, où l'Alliance des deux frères a créé des compétitions françaises. Donc, tu es obligé d'aller forcément dans les pays européens, donc tout ce qui était Espagne, Portugal, Italie, Allemagne ou après pays de l'Est. Donc c'est des grosses compétitions où eux, pour le coup, les athlètes avaient eu des compétitions régionales en fait. Donc il y avait déjà une présélection qui avait été faite, pas dans mon cas. Donc en fait, tu arrivais vraiment avec la crème de la crème et vraiment ce qui représente Olympia. Et forcément, les gens viennent chercher la carte pro et après la qualification à Olympia. Donc en fait, j'avais été obligée de participer à celle-là. Donc, ça a été une expérience qui était bonne à prendre, mais voilà, disons que c'était un peu gros pour le début.
C'est ça. Et du coup, toi, ton objectif actuellement dans les compétitions, c'est voilà, d'aller chercher ta carte pro et ensuite de participer à des compétitions professionnelles avec la carte pro pour pourquoi pas aller toucher un jour la compétition reine, on va dire, Olympia, c'est ça?
Alors, la compétition Rennes Olympia, on va dire que c'est un rêve avec un grand R. J'ai conscience, malheureusement, que voilà, il y a très peu d'élus, on va dire, pour énormément de participants. Sachant que je pense qu'il faut être vraiment à 2000% là-dedans lorsque tu as, on va dire, cet objectif. Pour ma part, en fait, j'ai des objectifs professionnels et personnels qui prennent le pas aussi sur la compétition. C'est-à-dire que déjà, j'en demande énormément à mes proches lorsque je suis en compétition et je pense que je ne serais pas prête à faire les sacrifices aujourd'hui qu'il faut pour aller jusque-là. Par contre, l'objectif de la carte professionnelle, ça oui. C'est-à-dire que je me suis fixée, on va dire, jusqu'à mes 30 ans, un petit peu révolue, pour cet objectif. Et je vais dire qu'après, si je vois que mon corps suit plus ou si j'ai d'autres projets à côté, voilà, je ne vais pas poursuivre ce rêve. Mais avant tout, en fait, la compétition, c'est une compétition contre moi-même. C'est-à-dire que j'ai conscience de mon passé, j'ai conscience de là où je viens, en fait, en étant une ancienne obèse, on va dire le mot, notamment aussi avec d'autres problèmes de santé qui ont suivi. Donc, en fait, à chaque fois que je monte sur scène, c'est vraiment moi contre moi.
D'accord, ok. Donc c'est une fierté déjà d'en être, on va dire, arrivé là et d'afficher la shape, je pense, que tu affiches quand tu fais une compétition. Et ouais, effectivement, tu l'as dit. Du coup, comment est-ce que tu peux, si tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce que t'imposes finalement, on va dire, comment tes proches, on va dire, te supportent pendant cette compétition? Qu'est-ce qu'ils font pour t'aider, pour te mettre dans les bonnes dispositions? Et comment est-ce que tu peux décrire du coup l'énergie? Comment est-ce que ça te taxe une compète avec la diète, avec l'entraînement, etc., la fatigue? Comment est-ce que tu peux traduire ça pour les personnes qui voilà, n'ont jamais fait et à qui ça peut intéresser d'en faire une un jour, quoi?
Bah, déjà, il faut être conscient que c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que c'est un processus qui est extrêmement énergivore et chronophage. C'est-à-dire que forcément, on va dire que votre vie va s'orienter autour de la prépa. C'est-à-dire que voilà, il faut respecter des horaires de repas, vraiment se caler au niveau des entraînements, quand tu commences à inclure le cardio, le NEAT, etc., le posing. Enfin voilà, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Donc il faut être conscient qu'il y a du temps à dégager pour ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir on va dire, d'un point de vue professionnel, il faut voir si ça va matcher. C'est-à-dire si une personne est en déplacement tout le temps, si on est sur une infirmière qui fait, je sais pas, les 3-8 sur quelqu'un qui est magasinier ou que sais-je encore, il faut prendre en compte que c'est compliqué. C'est pas impossible, mais c'est compliqué. Après, par rapport à l'entourage, au début, donc je vis toute seule, au début, mes parents avaient énormément de mal à comprendre pourquoi je m'étais lancée là-dedans. Ils trouvaient ça un peu superficiel, on va dire. Ils voyaient pas le côté sport et le côté compétition. Ils voyaient juste, je pense, le côté exhibition, en fait. Et ils comprenaient pas tous les sacrifices que j'étais obligée de faire pour monter sur scène, on va dire, pendant 30 secondes. Quand ils voyaient, je sais pas, sur les repas de famille que je venais avec mon tupperware, quand je demandais à ma mère si elle pouvait me cuisiner autre chose, clairement, donc mon père, voilà, il avait un avis très tranché sur la question. En tant qu'ancien militaire, voilà, c'est un peu particulier. Maman est un peu plus compréhensive, mais elle avait des peurs de maman. C'est-à-dire que en me voyant forcément maigrir, sécher, elle faisait pas le distinguo entre ma préparation et peut-être en fait un basculement vers les TCA. Donc pour elle, à me voir manger si peu, à me faire autant d'heures de cardio, de sport, etc., de me voir creuser, de me voir fatiguée, pour elle, je sombrais dans l'anorexie en fait. Elle commençait à se faire tout plein de films en fait, en pensant que j'allais me faire vomir ou ce genre de choses, alors que Pas du tout. C'est-à-dire, j'avais beau lui expliquer que chaque athlète était exactement dans le même processus que moi. Quand je pense quand ça touche à votre fille, vous n'arrivez pas à comprendre. Ça, son regard a changé à partir du moment où elle est venue me voir en compétition. Sur la première, elle pouvait pas être là par rapport aux mesures Covid, par rapport à tout ça. Par contre, là, cette année à Bordeaux, elle est venue parce que bah, forcément, ils n'étaient pas très loin. Donc là, en fait, quand elle m'a vue sur scène avec le bikini et tout le reste, et qu'elle a vu aussi les autres athlètes, surtout les hommes, parce que bon, mine de rien, c'est une femme, donc elle s'est bien rincée l'œil aussi, elle a eu conscience en fait que tout ça n'était pas fait pour rien, en fait, qu'il y avait vraiment un gros travail tout au long de l'année pour arriver à ce résultat. Donc là, je pense que sur la prépa qui arrive au mois de janvier, ça va être encore différent. C'est-à-dire quand je vais être amenée à voir mes proches, que ce soit mes parents, ma sœur ou que sais-je encore, ou mes amis, je pense que le fait qu'ils m'aient vue cette
Oui.
année, ça va changer en fait leur perception.
C'est vrai que c'est pas, on va dire que c'est pas un sport qui est connu, on va dire, du grand public. Et c'est vrai que si, par exemple, tu faisais alors un sport, je sais pas moi, par exemple du foot, du basket, quelque chose qui était, on va dire, un peu mainstream et que les gens peuvent voir à la télé, ils se diraient, elle se prépare pour une échéance. Alors là, c'est différent parce que c'est du body et que on a une diète, je pense, qui est beaucoup plus stricte que dans ces sports-là, même s'il y a une certaine rigueur à avoir, bien entendu, pour atteindre le haut niveau. Mais effectivement, vu que c'est un sport qui n'est pas connu, je pense qu'ils se demandaient pourquoi est-ce qu'elle fait ça. Et le fait de voir bah, le résultat, de voir la compétition, de voir l'encadrement, de voir que c'était quand même un gros truc et qu'il y avait vraiment du monde, un public, et que tu étais vraiment bah, une athlète finalement, je pense que ouais, ça ouvre les yeux sur le sport et sur le domaine, c'est ça?
C'est exactement ça, et comme tu l'as dit, c'est vraiment un milieu qui est encore très méconnu. C'est très particulier parce que à la fois c'est très méconnu et à la fois tout le monde est capable à peu près de donner son avis. C'est-à-dire que, je sais pas, moi quand je me balade dans la rue, là ça m'est encore arrivé il n'y a pas très longtemps parce que je viens de déménager sur Agen qui est quand même plus petit que là où j'étais à Bordeaux avant. On est sur un milieu rural, les gens n'ont pas de filtre donc ils te parlent. Et une dame est clairement venue me voir en me disant, ah mais si t'es aussi musclé, c'est parce que tu te piques. T'as envie de dire, mais t'es chimiste, est-ce que tu connais quelque chose? Mais non, en fait, viens pas donner ton avis, et puis de toute façon, t'y connais rien. Et en fait, voilà, je te dis, les gens ne connaissent pas, et à la fois, ils ont l'impression que c'est un milieu qui leur est familier, en fait. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier.
Bah, en fait, c'est vrai que c'est un sport qui est entre guillemets facile à juger parce que c'est pas une performance, on va dire, technique comme dans d'autres sports. Je sais pas, par exemple, le tennis, etc., où il y a un aspect technique hyper important. C'est un sport très visuel où c'est très facile, voilà, de donner son avis parce que tu as un physique et tu juges, on va dire, la qualité physique. Après, évidemment, ils n'ont pas les critères des juges, etc. Mais voilà, c'est facile de juger vu qu'il n'y a pas. Cet aspect technique, etc. Enfin, il est là pour les puristes, pour les connaisseurs. Mais voilà, c'est facile de le juger. Donc, effectivement, bah, tu peux facilement dire, lui, il a un bon physique, lui, il n'a pas un bon physique, elle a un bon physique. C'est facile de le juger, ouais.
Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand tu parles aux gens, quand ils te demandent ce que tu fais dans la vie, etc., et que tu dis que tu es athlète bikini, bon, déjà pour eux, bikini, ils ont
Oui.
Miss France défilant en maillot de bain, qu'est-ce que c'est que ça?
Ouais.
Et après, tu leur dis, mais non, c'est fait partie du bodybuilding. Et alors là, dans leur tête, bodybuilding, c'est en fait, ils confondent avec le powerlifting. C'est pour eux, tu vas soulever des poids sur scène, en fait. Et c'est assez particulier parce que, en fait, tu essaies de leur expliquer qu'en effet, tu soulèves des poids qui sont très lourds, mais quand tu vas arriver sur scène, c'est pas le but. Le but, c'est d'afficher un physique. Donc, je pense qu'il y a une compréhension qui est très, très compliquée.
Ouais, même bah, de toute manière, même pour bah, moi, par exemple, je fais du powerlifting, tu vois. Et effectivement, bah, c'est un peu le même principe parce que bah, tu vois, mes parents, pareil, ne comprennent pas forcément. C'est pas un sport qui leur est familier, tu vois. Donc ils se demandent pourquoi on fait ça, pourquoi? Parce qu'on est bah, passionné par le sport en lui-même, passionné par bah, voilà, par exemple, moi, c'est tout le principe de progression pour arriver à un potentiel maximum, tu vois, le jour de la compétition pour faire on va dire une performance, tu vois, une performance que je juge, tu vois, bah, qui me satisfait tout simplement. Et voilà, c'est vrai que c'est bah, c'est un peu comme le body, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est connu du grand public, peut-être un petit peu plus parce que sur scène, on va dire, si on peut appeler ça sur scène, il y a, on va dire, la performance physique, tu vois, le jour J. Mais c'est vrai que pour le body, tout est fait en amont, entre guillemets, et le jour J, c'est le résultat de tout ce que tu as fait, mais sans, on va dire, montrer ce que tu as fait le jour J. Je ne sais pas si je suis clair, mais effectivement,
Tout à fait.
Tout le travail est fait en amont, donc c'est vrai que le jour J, c'est plus compliqué de voir et de se dire, elle est super forte, elle est incroyable, parce que voilà, quand tu connais pas, bah, tu juges le physique et tu peux te dire, j'imagine, quand je me mets à la place de quelqu'un qui n'a jamais vu de compétition de body, tu peux te dire, elles se ressemblent un peu toutes, etc. Alors que c'est dans le détail, effectivement, parce que tout le monde a fait le travail, tout le monde a un gros niveau en général, surtout sur les grosses compètes, donc tu te dis… Voilà, les différences, elles sont dans les détails. Et c'est vrai que bah, quand tu connais pas le domaine, tu peux pas les voir, ce genre de détails, quoi. Tu peux pas voir, effectivement, elle a un petit peu plus d'épaule, elle a un petit peu plus de fessiers, etc. Ça, tu le vois pas, tu vois.
Ah oui, tout à fait. Bah, c'est le cas quand j'en discutais avec ma maman. Pour elle, bah, quand je lui montre, elles sont toutes jolies, elles mériteraient toutes de gagner. Donc c'est vrai que le regard amateur est toujours un peu mignon. Mais voilà, je pense que d'année en année, c'est un sport qui va se démocratiser, notamment par rapport à l'émergence, mine de rien, des réseaux sociaux. C'est extrêmement présent. Donc je pense qu'on n'est pas loin bientôt de pouvoir peut-être avoir les compétitions à la télé ou peut-être avoir, je ne sais pas, les résultats de Olympia dans le journal de 20h, j'en sais rien. Ça serait chouette parce que ça démocratiserait un petit peu ce qu'on fait. Parce que mine de rien, dans les autres pays, c'est quelque chose qui est énormément développé. Nous, en France, on est quand même un peu en retard. Tu vois, notamment, je sais pas, moi, quand je suis allée au Portugal pour Olympia, j'étais très surprise que la population ne soit pas choquée du taux de bodybuilders qui étaient présents dans cette petite ville. Donc, c'était à Estoril. Et les gens trouvaient ça totalement normal. Alors que nous, tu vas en plein été en short et en débardeur faire tes courses, mais tu es vu comme un extraterrestre, en fait. Tu vois, un petit peu.
Et bien sûr, ouais. C'est vrai qu'en France, on a un retard sur la perception par rapport à, que les gens ont, mais c'est vrai qu'avec les réseaux, bah, c'est un sport, je pense, qui est de plus en plus présent sur les réseaux. Donc, pour toutes les personnes qui sont sur les réseaux, je pense qu'ils ont déjà vu du body, que ce soit du body, du power, parce que c'est très visuel. Tu as un physique très esthétique, etc. Bah, tu vas peut-être t'arrêter sur la page, etc. Tu vois une énorme perf au squat avec un gros chiffre marqué 300, bah, tu vas t'arrêter pour regarder. C'est des sports qui sont très visuels, mais effectivement, pour que ça arrive vers bah, je sais pas, des personnes un peu plus, peut-être un peu plus âgées qui ne sont pas sur les réseaux, etc. C'est vrai que ça demande un peu plus de temps. Mais notre génération à nous, elle va évoluer, elle va avancer, elle va mettre les choses en place. Donc je pense que petit à petit, ça va se faire. Et de toute manière, c'est une roue qui ne va pas s'arrêter. Mais effectivement, ça demande un peu de temps. Mais ce serait cool que ça devienne un peu plus, bah, comme je disais, mainstream, un peu plus. Alors pas comme le foot ou le basket, effectivement. Je pense que ça, il y a le temps de voir venir. Mais voilà, qu'il y ait plus de gens à parler de ça. Quoique, tu me disais, parler au journal de 20h, c'est vrai que des fois, c'est plus des reportages sur des bodybuilders clichés qu'on peut avoir. Comme, je ne sais pas, je me souviens qu'il y avait un sur… Alexandre Nataf, je ne sais pas si tu vois, c'était sur NRJ 12, un truc, mais qui était. Alors que ce n'est pas quelqu'un de bête ou quoi, sachant qu'il est médecin en plus, je crois, mais le reportage était complètement cliché. Effectivement, ça donnait plus une mauvaise image, ça desservait plus la cause que ça. Donc, ce serait bien de le faire, par exemple, un reportage comme ça avec quelqu'un comme toi qui est posé, qui réfléchit, qui fait peut-être quelque chose de moins hardcore pour les gens, parce que c'est vrai de voir un bodybuilder open. La catégorie la plus lourde avec une femme à côté de lui, je crois qu'elle était aussi en open, donc vraiment c'était poussé à l'extrême, tu vois, parce que forcément il voulait le truc cliché. C'est vrai que ça dessert un peu la cause, donc de faire quelque chose de plus travaillé peut-être et sans rechercher le buzz, ça servirait sûrement le body, etc. et la cause, quoi, bien sûr.
Bah, c'est vrai que je rebondis sur cet aspect cliché que tu as soulevé. Notamment, tu vois, il y a une. Je suis tombée sur ça l'autre jour. Il y a une espèce de docu-fiction, enfin, non, même pas fiction, une espèce de reportage documentaire justement sur une femme bodybuildeuse qui a assassiné son mari là sur Netflix. Et je me disais, en fait, ça nous fait vraiment pas bonne presse. C'est-à-dire qu'ils prennent vraiment les extrêmes des gens qui sont sous stéro et qui pètent un câble et qui vivent pour ça, qui tombent dans la pornographie, dans l'exhibition, etc., pour payer leur cure. Mais tu as envie de dire, mais. Le milieu, il est à des milles de ça, c'est-à-dire que très certainement ça existe, tu vois. C'est, on entend, il y a des moments sur les compétitions, des histoires un peu sordides, ce genre de choses, mais c'est pas non plus la réalité, c'est-à-dire que c'est comme dans tout, c'est-à-dire tu as la réalité de la pratique et après vraiment tu as les extrêmes. Donc malheureusement, en fait, on est nourri par cette image et c'est un petit peu dommage. Ce qui est aussi dommage, c'est que les gens maintenant voilà, se cantonnent à l'aspect, on va dire, plus visuel, très massif, c'est-à-dire que pour eux, tu as une légitimité quand tu es énorme, quand tu es hyper sec, etc. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils ne voient plus l'aspect, on va dire, art. de la discipline. Parce que mine de rien, c'est quelque chose qui vient de l'Antiquité. Quand tu prends par exemple le posing, quand tu retournes à l'âge d'or avec Arnold, etc., c'était des choses qui étaient extrêmement esthétiques, mais esthétiques au sens artistique. Et en ce moment, sur les compétitions, on le voit à Olympia, c'est vraiment de la course à la masse, en fait. Quand tu vois Chris Bumstead lorsqu'il a gagné la première fois et que tu le vois aujourd'hui, il n'y a plus rien à voir. C'est-à-dire que même son visage n'est plus le même. Tu as le nez qui s'épaissit, tu as les oreilles qui grandissent, tout est dans le trop, tout est dans le plus, et c'est ce qu'on demande. Et je trouve ça un petit peu dommage. Tu n'es plus dans la partie vraiment très, très esthétique et ouais, très artistique, en fait.
Oui, bah après ça, ouais, c'est un débat qui est souvent soulevé maintenant par les anciens où effectivement on mettait en avant l'esthétique, l'art du posing. Maintenant, c'est vrai qu'on met en avant plutôt, surtout chez les catégories, voilà, Olympia, Open, etc., même classique physique. Alors de base, c'était justement pour un peu contrebalancer avec cette catégorie-là. Et effectivement, on est un peu aussi dans la course à la masse et avec effectivement les dérives que ça peut apporter quand on voit Big Ramy, etc., gagner, alors que c'est vraiment pas le plus esthétique, je pense, sur scène. Il y avait eu un petit sursaut à ce niveau-là quand, je crois, c'était Sean Roden qui avait gagné, qui avait une belle ligne, etc., qui était quand même esthétique, même si évidemment il était extrêmement massif. Mais bon, c'est une catégorie open, donc sans limite de poids, donc on peut s'imaginer que forcément ce sera de la masse quand même. Mais voilà, effectivement, l'âge d'or, comme tu as parlé, où les mecs étaient moins massifs, parce que quand on compare, si on met Arnold à côté des mecs maintenant, je pense qu'il rendrait un petit peu, même un petit peu skinny, même s'il était énorme. Il y avait beaucoup plus cet aspect esthétique et esthétisme, c'est clair. Vas-y, excuse-moi, je te laisse. Tu voulais.
Non, non, je disais juste, même tu vois, par rapport à ma catégorie, donc en bikini, lorsque tu regardes les bikinis d'il y a 10 ans, donc par exemple Courtney King, la femme de Chris Bumstead, et aujourd'hui, quand tu vois des Loralie Chapados ou la petite nouvelle qui s'appelle Valeria, qui à mon avis va faire un malheur, qui est ukrainienne, c'est. Enfin, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait, les bikinis d'aujourd'hui sont les figures, voire les wellness d'il y a quelques années. Donc, en fait, même, enfin, toutes les catégories ont évolué. C'est-à-dire que pour les hommes, c'est la course à la masse, mais pour les femmes aussi. Et c'est dommage parce que tu te retrouves avec des plateaux où bah les femmes sortent un petit peu de ce qu'on recherchait au début, c'est-à-dire vraiment magnifier le corps de la femme d'un point de vue sportif. Et là, bon, il y a des moments, c'est plus trop le cas, en fait. Quand tu vois, par exemple, sur des compétitions que... Parce que moi, j'y étais, donc tu te rends compte un petit peu de la face cachée quand tu te rends compte que bah, les filles ont tellement abusé au niveau de la sèche, te donnent tellement, etc., ou même il y a des moments sous-produits, on va pas se mentir, qu'elles perdent leurs cheveux, donc elles arrivent avec des perruques. Enfin, c'est dommage, en fait, tu vois. Tu te dis, mais en fait... Où est l'essence de la discipline?
Et justement, je rebondis sur ça parce que c'était une question que je voulais te poser. C'est quoi les critères actuels par rapport à ceux d'il y a 10 ans? Est-ce qu'ils ont changé pour les compétitions en bikini ou pas?
Les critères ont énormément évolué. Alors après, ça dépend aussi forcément la fédération dans laquelle tu es. Par exemple, quand tu vas en IFBB ou NPC, le posing déjà n'est pas le même pour les bikinis, donc forcément les critères ne sont pas les mêmes. Par exemple, en IFBB, tu dois retirer tes cheveux, alors que nous, en NPC, les cheveux restent dans le dos et doivent tomber au niveau de ta chute de rein, et on va dire découvrir un petit peu les épaules. Donc dans mon cas, en NPC, pour les bikinis en général, hein, tu attends d'avoir une morphologie en sablier, c'est-à-dire avoir les épaules assez larges et bien formées, c'est-à-dire avoir des jolis deltoïdes, un arrière d'épaule qui est visible, parce que mine de rien, sur notre pose de dos, c'est la seule chose qu'on voit, on ne voit pas le dos, toute la partie trapèze, rhomboïde et tout le reste. Avoir une taille extrêmement fine, mais pas forcément les abdos saillants. Tu vois, par exemple, si tu as les abdos ultra veineux, etc., bon, ça passe un petit peu moyen. Et après, avoir un fessier extrêmement développé, non pas à l'extrême comme les wellness qui clairement ont des fesses de centaure vraiment musclées, mais on cherche de plus en plus le galbe, notamment au niveau, voilà, du grand fessier, même du moyen fessier quand tu es sur ta pose de face, mais c'est plus sur la densité musculaire, en fait, que les critères ont évolué. C'est-à-dire que sur le papier, la forme en sablier, tout ça, ça a toujours existé, mais la densité musculaire recherchée n'est absolument plus la même. C'est-à-dire que là, il faut que tu arrives vraiment planté, vraiment énervé, et ouais, c'est la peau sur les os. Avant, on attendait que tu sois un peu voilé quand même, mais là, aujourd'hui, voilà, plus c'est saillant, entre guillemets, et mieux c'est, quoi.
Donc même en bikini, on avance petit à petit un petit peu plus dans... plus sec, plus massif, etc. Donc petit à petit, ça avance comme un peu les autres catégories.
Exactement, ça avance et enfin ça avance pareil, c'est-à-dire que quand tu vois, je te disais tout à l'heure, l'évolution en fait des bikinis, tu te rends compte que ça n'a absolument plus rien à voir. Les bikinis d'il y a 10 ans ressemblaient un peu à ce qu'on voit aujourd'hui dans les concours de beauté, c'est-à-dire des concours Miss France qui auraient été un petit peu plus athlétiques en somme. Là aujourd'hui, clairement, tu présentes une bikini actuelle à Miss France, les gens vont se dire qu'est-ce que c'est que ça, tu vois?
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Ça n'a plus rien à voir.
Et est-ce que par rapport à avant, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui revient dans ce domaine-là, est-ce que du coup, dans les compétitions évidemment comme Olympia, etc., il y a une utilisation plus importante des produits dopants par rapport à avant dans les compétitions bikini?
Alors, par rapport à avant,
Par
j'en sais
rapport à il y a 10 ans, par exemple, où il y avait des corps, comme tu disais, un peu moins écorchés, un peu moins massifs?
Je pense que le dopage a toujours existé, quoi qu'il arrive, pour vraiment, bah, pour pouvoir tenir, pour pouvoir pousser le corps à l'extrême. Mais je pense qu'il n'était pas aussi démocratisé que maintenant. C'est-à-dire que là, les produits sont quand même accessibles. Tu as même des dérivés sur Internet, etc. Enfin, c'est un peu la catastrophe. Mais aujourd'hui, ouais, je pense que ça s'est démocratisé. C'est-à-dire que quand tu vas en salle de sport et que tu as des jeunes de 16, 18 ans qui commencent à te parler de produits que même toi, tu n'as jamais entendu de ta vie, mais je trouve que c'est grave en fait parce que les gens se disent que pour y arriver, quoi qu'il arrive, il faudra passer par cette case-là. Moi, par exemple, j'ai fait ma compétition. Là, aujourd'hui, j'ai des ambitions dans le milieu du body. Mais j'ai pas basculé, si tu veux. Je fais mon petit truc de mon côté et ça avance petit à petit. Ça prend du temps, certes, mais voilà, j'ai pas basculé dans le côté obscur de la force, on va dire. Mais
Ouais, c'est vrai que pour les compétitions, alors ça dépend quelle catégorie tu vises aussi, parce que je pense que, imaginons, tu visais, alors au-dessus de bikini en termes de masse, effectivement, il y a wellness, figure, je crois, et après c'est open, non? Je crois que c'est ça.
tout à fait, ouais, ta figure wellness et après tu as la catégorie body, forcément.
Et donc là, effectivement, dans les catégories au-dessus, est-ce que tu penses que morphologiquement c'est atteignable? Alors, sans parler effectivement, bah, on va parler d'un bon niveau, d'avoir une carte pro, parce qu'effectivement tout le monde peut faire une compétition, on va dire une compétition pour une qualif, enfin une compétition amateur, on va dire, tout le monde peut avoir une bonne shape, mais pour avoir une carte pro, tu penses que c'est possible naturellement dans ces catégories un petit peu au-dessus, ou avec une bonne morphologie et une rigueur à toute épreuve, ou est-ce que c'est compliqué? Bon, sans parler de open, parce que je pense que c'est un petit peu particulier et qu'il n'y a pas trop de sujets à débat sur cette catégorie-là, ouais.
Très sincèrement, je pense que tu as des personnes qui ont des prédispositions génétiques à pouvoir faire quelque chose d'incroyable, mais pour être compétitif, on va pas se mentir, si vraiment on parle de l'excellence, hein, je te parle de carte pro, etc., je pense que la case chimie est pratiquement obligatoire. C'est dommage, je n'encouragerais pas, mais je pense que si vraiment tu vas arriver en wellness ou en figure sur la scène d'Olympia à Las Vegas,
Oui, bien sûr.
clairement, tu ne tournes pas qu'à la whey et au blanc de poulet, tu vois. C'est comment dirais-je, même sur une catégorie bikini, hein, je pense que s'il y a eu une natie, elle n'est pas arrivée première et ça s'explique parce que forcément les autres étaient sous dopage.
Ouais. Non, mais après, c'est bien sans, évidemment, on n'encourage absolument pas, et même dans le discours, c'est pas ce qu'on dit, mais effectivement, être honnête, pardon, et lucide sur les choses. Quand, par exemple, quelqu'un, je sais pas, un jeune de 18 ans veut se lancer dans le body, etc., qu'il a une bonne morpho, etc., voilà, faut être conscient aussi que bah, voilà, l'excellence, et notamment à Olympia, en l'occurrence, c'est ça dans le body, l'excellence, bah, qu'il y a beaucoup d'utilisation de produits dopants, et même dans les catégories qu'on penserait peut-être un peu moins, et où peut-être il y en avait moins avant, comme je te disais, bah, voilà, bikini, c'est vrai qu'il y avait des physiques. Comme tu disais, c'était vraiment. C'était moins l'objectif d'avoir une grosse masse, c'était plutôt d'avoir le corps le plus esthétique, effectivement, avec des critères bien, bien définis. Et maintenant, on demande l'esthétique, mais avec, comme tu disais, avec de la masse, etc. Donc, ouais, c'est important d'en être conscient. Je voulais revenir sur un point aussi, c'était par rapport à la frontière qui est assez mince pendant une prépa entre rigueur et TCA. Comment est-ce que tu la définirais? Et comment est-ce que tu conseilles à quelqu'un de commencer une prépa si, on va dire, niveau alimentation, tout n'est pas déjà carré dans sa tête psychologiquement? Comment est-ce que tu conseilles à quelqu'un évidemment, d'entamer une prépa?
Alors clairement, si une personne a déjà des troubles du comportement alimentaire, qu'il s'agisse de boulimie, d'hyperphagie ou même d'orthorexie, clairement, hein, je lui conseille de ne pas faire de prépa. Je lui conseille d'abandonner pour l'instant les idées de compétition et d'abord de soigner sa relation à la nourriture. Moi, j'ai fait ma première prépa avec un préparateur avec qui ça s'est très mal passé la première année parce que voilà, ça s'est très mal passé parce qu'il avait des pratiques un peu extrêmes. Je ne citerai pas son nom pour pas faire on va dire pour pas entamer un débat, mais ça s'est très mal passé. J'ai été fatiguée, j'ai été malmenée d'un point de vue alimentaire, etc. Et clairement, mon post-compétition s'est très mal passé. Je vais être totalement transparente là-dessus. Il s'est très mal passé, non pas dans le sens où j'ai sombré dans la boulimie à vouloir manger tout et n'importe quoi pour compenser, absolument pas, au contraire. Déjà, pour vous donner un ordre d'idée, quand je suis sortie de scène, la seule chose que je souhaitais manger, c'était des tomates. Tu vois, j'avais tellement envie de fraîcheur, de fruits ou de légumes que j'avais même plus le droit de manger à la fin, que j'avais juste envie de ça. Alors que généralement, quand les filles sortent de scène, je sais pas, t'as envie de te taper un cookie, t'as envie de te taper un énorme burger, une pizza ou que sais-je encore. Moi, non, c'était. Et j'étais complètement flippée à l'idée de remanger. Et ça m'a duré. J'ai fait Olympia mi-juillet. Ça m'a duré très sincèrement, je pense, jusqu'à au moins Noël, à vraiment être extrêmement mal dans ma peau. J'ai eu beaucoup de mal à remanger, j'étais une flippée de la nourriture. J'étais tout le temps en train de me scruter, en train de tirer ma peau, voir si j'avais repris un peu de poids, etc. J'ai sombré en fait, mais j'ai vraiment sombré dans la dépression, à tel point que je supportais même plus de passer devant le miroir, de me voir. J'ai fait une crise nerveuse, j'en perdais mes cheveux. Enfin, c'était absolument épouvantable parce que de base, j'avais une relation à la nourriture qui était quand même un peu conflictuelle, dans la mesure où, bah, quand on est dans ce milieu-là, forcément, quand on commence à voir son corps changer, etc., dans le cadre de prépa ou même de, par exemple, de mini-cut d'un point de vue perso, on a énormément de mal à se revoir changer. Moi, je sais que le processus de prise de masse est hors de ça. Là, je suis en plein dedans et très sincèrement, c'est difficile, même si je sais que c'est obligatoire. Mais voilà, l'année dernière, ça a été très complexe. Ce qui m'a permis après de me remettre dedans, c'est que je devais me faire opérer de la poitrine et je me suis dit, si je dois me faire opérer, soutenir l'opération, il faut absolument que je sois en forme. Parce que j'ai eu des arriérés, malheureusement, où des opérations ne se sont pas super bien passées et j'ai sombré dans le coma. Donc, je ne voulais pas réitérer cette expérience. Je me suis dit, là, il faut absolument que je me remplume. Et tu vois, là, cette année, donc j'ai changé de préparateur, ça s'est beaucoup mieux passé. C'est-à-dire que, je ne vais pas mentir, c'est difficile. Là, sur scène, sur ma dernière scène, je pesais entre 58 et 59 kilos. Là, je suis remontée à 63,5. Dans ma tête, c'est difficile. Alors, je sais que sur le papier, ce n'est pas grand-chose et que c'est nécessaire. Mais je l'aborde mieux. Donc, en fait, si quelqu'un veut se lancer, déjà, il faut absolument que la relation avec la nourriture soit 100% saine. C'est-à-dire être OK dans le principe de devoir avoir faim, on va pas se mentir, hein, sur la faim tu crèves la dalle, c'est pas une partie de plaisir. Et après être OK sur le principe justement de reverse diet, c'est-à-dire reprendre une alimentation classique progressive. Parce que tu as des personnes comme moi qui vont avoir du mal à remanger et tu as des personnes qui vont tomber à un extrême et qui vont juste vouloir combler et se remplir. Et là clairement c'est pareil, là tu sombres dans autre chose. Donc voilà, il faut être conscient qu'il y a un avant, il y a un pendant. Et il y a un après. Et donc, il faut que la relation avec la nourriture soit 100% saine. Sinon, c'est même pas la peine d'y penser, je pense, sous peine d'accentuer en fait les troubles.
Ouais. Alors, je vais juste compléter. C'est vrai que je reviens sur un point parce que effectivement, tu as parlé aussi du préparateur. J'ai fait un podcast avec Nicolas Vuliou qui a fait Olympia en 205, en moins de 205, la catégorie. Et effectivement, il a parlé de la chance qu'il avait eue de tomber directement sur quelqu'un de confiance et quelqu'un d'honnête et qui avec qui il s'entendait très très bien et qui lui a permis d'avancer comme ça directement très vite dans ce milieu-là. Et c'est vrai que quand tu tombes sur un préparateur comme tu l'as comme ça a été le cas pour toi, avec qui ça s'est mal passé. Et effectivement, voilà, c'est vrai que ça peut dégoûter. Et je pense que si tu étais tombé sur quelqu'un de confiance avec qui ça s'était super bien passé, qui t'avait peut-être plus écouté, etc., tu n'aurais pas eu peut-être cette période et il t'aurait peut-être accompagné durant cette période qui aurait peut-être été difficile, effectivement, de reprise de poids, de voir que après avoir atteint, on va dire, l'excellence entre guillemets physique et ton meilleur niveau, tu dois reprendre, tu vois, un petit peu de gras, etc. Parce que tu sais que c'est pas viable, tu sais que tu vas pas pouvoir progresser. Et puis de toute manière, si tu veux te relancer sur une prépa plus tard, bah, il va falloir corriger peut-être les points et les défauts que tu avais sur scène cette année-là. Donc il va falloir forcément réaugmenter les cales. Donc effectivement, si tu avais eu quelqu'un de confiance, tu aurais peut-être pas passé par, tu serais peut-être pas passé par un moment aussi difficile.
Ah non, ça c'est certain, mais là en fait, au début quand j'étais dans l'euphorie de la prépa, je me rendais pas compte à quel point, enfin à quel point c'était néfaste ce qui me faisait faire. C'est-à-dire que quand tu prends un préparateur, bah en fait tu te dis, ok, je mets mon cerveau sur pause et je lui fais 100% confiance. C'est-à-dire que moi c'est mon travail aussi de faire du coaching, etc. J'ai moi-même préparé un athlète là pour le mois d'octobre, donc. Je savais pertinemment qu'il y avait un problème dans ce qu'il me faisait faire, mais je me disais, il a l'habitude parce que c'est quelqu'un qui a emmené justement des personnes à Olympia, etc. Je te parle de Olympia Vegas, et je me disais, s'il me fait faire ça, c'est qu'il y a une raison. Il y a peut-être quelque chose que moi je ne comprends pas ou autre.
Il y a peut-être
Et en
une
fait,
autre méthode, quoi, c'est ça.
exactement ça. Et en fait, avec le recul, je me dis, mais ne serait-ce que dans la méthode qui était vraiment arriérée, et après même sur l'accompagnement psychologique quand. Vous choisissez un préparateur, il faut absolument que la personne corresponde à vos valeurs humaines. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un échange. Une prépa, c'est difficile, il y a des moments où vous avez besoin de parler, vous avez des questions, vous avez des doutes, vous doutez de vous-même, vous doutez du processus. Et en fait, il faut qu'il y ait un échange pour que la personne soit rassurée. Là, tu vois, actuellement, mon préparateur, si j'ai une question, je lui envoie un message. Voilà, il me fait un vocal. C'est passé par, enfin, ça a été le cas, par exemple, le week-end dernier, ou quand je lui ai fait mon bilan. Mais clairement, je me suis effondrée en pleurs, en fait, parce que je me suis trouvée dégueulasse. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai de la cellulite. Tu vois, je sais pas, moi j'ai l'habitude d'avoir vraiment les abdos visibles, là ils sont voilés parce que je suis dans un processus. Et j'étais en train de douter. Et il a eu vraiment les mots pour me rassurer. Il m'a montré comment j'étais au mois d'août, comment j'étais maintenant, pour me montrer que bah, les proportions évoluaient dans le bon sens. Et du coup, cet échange m'a permis de souffler et de me dire, oui, c'est vrai que je suis dans un processus où ça va. Ce qui est drôle, c'est que les gens me disent, mais c'est bizarre, t'es coach et t'es un préparateur. Oui, mais en fait, quand vous êtes dans le milieu, vous avez tellement l'habitude de réfléchir pour tout le monde que quand il s'agit de vous, vous êtes même plus capable de savoir ce qu'il faut faire, en fait. Et vous n'avez plus du tout d'objectivité. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ok, mais alors attends, il faut peut-être que je fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Là, en fait, pour ma compétition de cet été, il faut savoir que je me suis préparée 100% toute seule, sauf à 15 jours de l'échéance où malheureusement j'ai chopé le Covid. Et alors là, post-Covid, je devais monter sur scène 10 jours après. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je savais plus du tout quoi faire. J'étais fatiguée, j'étais flotteuse, j'avais plus de force. C'était au moment où je devais entamer ma décharge. Je me suis dit, mais attends, si je fais une décharge sur un corps qui a déjà souffert pendant 10 jours, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, j'ai demandé de l'aide à un préparateur que je connaissais, qui est mon préparateur actuel. Et hyper gentiment, il m'a dit, écoute, Marine, je sens que ça va pas, que tu es éprouvée, etc. Là, sur les 10 jours qui restent, tu me le laisses gérer. Mais tout ce qui a été en amont, c'est moi qui l'ai fait toute seule. Et sincèrement, sincèrement, je le déconseille fortement parce qu'en fait, on est tout le temps en train de réfléchir, tout le temps en train de se remettre en question, et c'est extrêmement stressant.
Ouais, c'est vrai que effectivement, bah, c'est rare de voir un athlète qui se prépare tout seul. C'est vrai que c'est rare, surtout quand on arrive, alors que ce soit dans tous les sports, hein, que ce soit en body, en power, etc. C'est très rare. Et c'est vrai que voilà, c'est une question qui revient souvent. T'es coach, mais tu te fais coacher, c'est-à-dire que t'as pas les compétences pour. Non, c'est juste que de manière objective, on n'est pas objectif envers soi-même. Et
Non.
il faut avoir un avis extérieur. Il faut avoir quelqu'un qui fait les choix pour nous. Parce que moi, je sais que voilà, si je me coach moi-même, par exemple en power, ça va être trop intense, trop souvent, et qu'au final je vais cramer mon système nerveux et que je saurais pas dire, je saurais pas me dire à moi-même on ralentit cette semaine-là, etc. Parce qu'on a toujours envie de progresser, tu vois. Donc effectivement, l'objectivité déjà, avoir un regard extérieur, plus avoir quelqu'un qui prend les décisions pour soi, ça fait du bien quand c'est notre métier toute la journée de prendre des décisions, que ce soit au niveau diète ou au niveau sportif pour des gens. C'est vrai que comme tu l'as dit, on fait tellement ça au quotidien pour différents profils, différents types de personnes, que quand c'est pour nous, on n'a même plus envie de le faire, on n'a pas envie de, enfin, on n'arrive même plus à réfléchir pour le faire. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'indispensable, et mais pas que en body. Voilà, c'est vraiment dans tous les sports. Et si quelqu'un est préparateur physique, mais à côté ou est coach et à côté prépare une compétition ou quelque chose, bah voilà, c'est indispensable d'avoir quelqu'un. Et comme tu l'as dit, quelqu'un qui a confiance, parce que ce qu'il a fait, c'est vrai que ça démontre aussi une confiance dans le sens où il avait quand même tout ton travail entre les mains. Il t'a dit, mets-toi en pause, je gère. Tu vois, c'est quelque chose qui aussi donne confiance, effectivement. Et ça prouve que le mec sait de quoi il parle, parce que voilà, rien que des fois des phrases comme ça remet en confiance. Et voilà, là, comme tu l'as dit, il y a une semaine, tu as eu un moment un peu plus difficile, il a su te remotiver, etc. C'est ça aussi, parce que te rassurer et aussi te remotiver, parce qu'il y a toujours cet aspect motivation, discipline, parce qu'on est quand même dans un sport qui est exigeant, donc il faut rester motivé, parce que c'est pas facile au quotidien. Les gens, ils voient seulement effectivement les efforts, ou alors ils voient seulement le résultat, ou ils voient ce qu'on veut montrer sur les réseaux, ce qu'on veut bien leur montrer, mais effectivement, ils voient pas tous les moments aussi de doute, de petites blessures, de douleurs, etc. Et c'est vrai que avoir un préparateur qui gère ça, c'est indispensable.
Ah oui, tout à fait. Mais tu vois, comme tu le disais, moi, c'est pareil. Si, quand je me préparais toute seule, clairement, si je ne sortais pas de ma séance complètement morte sur les rotules, pour moi, c'était pas une bonne séance. Parce qu'en fait, tu as cette espèce de psychologie, quand tu travailles tout seul, de vouloir aller à l'extrême et de vouloir vraiment, vraiment t'éprouver, en fait. Si en plus, tu as une petite tendance masochiste, tu vois, c'est encore plus accentué. Mais non, trêve de plaisanterie, c'est extrêmement important, je pense, quand on a des objectifs vraiment ambitieux, de faire confiance à quelqu'un d'autre, même dans le cadre juste d'un petit objectif, que ça soit de la perte de poids, une prise de masse ou autre. Quand c'est fait par quelqu'un d'autre, tu as toi la charge mentale en moins, et du coup, tu peux te concentrer sur d'autres choses dans ta vie. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je continue à me préparer toute seule, je ne pourrais pas aussi bien assurer dans mon boulot, aussi bien assurer dans mes projets perso, parce que mais ça te prend une putain d'énergie, en fait. C'est déjà qu'une prépa, c'est difficile, mais en plus, quand tu réfléchis par toi-même, c'est encore plus complexe. Donc, je pense que avoir un coach, peu importe ce qu'on fait, c'est vraiment une plus-value à sa vie, parce que tu te dégages, en fait, du temps, et tu te dégages un espèce d'espace mental, en fait.
C'est ça. Donc, en plus, c'est vrai que quand c'est nous-mêmes et qu'on est vraiment impliqué dans son objectif, c'est vrai qu'on cogite, on cogite, on cogite, on pense au truc. Même si on travaille, on peut y penser parce qu'on se dit c'est nous, et c'est vrai qu'on est hyper impliqué dans ce qu'on fait. Est-ce que je fais ça? Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un, ça enlève cette charge mentale. Et même, comme tu l'as dit, pour un coaching classique, c'est vrai que voilà, quand quelqu'un nous dit par exemple qu'il n'a pas le temps, mais justement, c'est vrai que le coaching, c'est un gain en temps, et ça lui permet de mettre vraiment le cerveau en pause. Et de respecter, par exemple, les séances. Tu vois, elle n'a pas besoin, la personne, de réfléchir à ses séances. Elle a ses séances, elle sait exactement ce qu'elle doit faire à la salle, donc pas de perte de temps, etc. Et au niveau alimentation, elle sait potentiellement quel macro, si c'est par une répartition des macros, elle doit manger. Et elle sait à peu près les aliments. Dès qu'elle a une question, elle peut la poser, pas besoin d'aller googliser la question et avoir 10 réponses n'importe comment qui sortent, qui disent tout et son contraire. Donc, effectivement, c'est vraiment un gain aussi important en temps. Donc, effectivement, ça coûte de l'argent, mais ça fait gagner un temps considérable, et ça fait potentiellement gagner de l'argent quand on voit effectivement les personnes qui, par exemple, bon là je déviens un petit peu du sujet, mais qui achètent aussi des choses sur des compléments magiques ou des trucs sur le THA, ce genre de choses miraculeux, mais qui ne fonctionnent pas.
Mais tu vois, je fais souvent un parallèle lorsqu'il y a des moments où j'ai des demandes de coaching ou autre, et que les gens te parlent de l'argument, je sais pas, du prix ou même autre chose, ou je le vois aussi par exemple avec mon papa qui je pense que mon métier le dépasse un peu, qui me dit mais je vois pas pourquoi moi en tant que personne je me verrais pas payer quelqu'un en fait pour me faire du sport, parce que j'ai 50 ans, je suis militaire, je suis sportif, je sais quoi faire. OK, mais en fait je fais souvent ce parallèle, c'est tu as une voiture, tu sais conduire, c'est pas pour autant que tu sais la bricoler quand il y a quelque chose qui va pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est que il y a une différence entre connaître, tu vois, et vraiment savoir avec un grand S. C'est-à-dire que, mine de rien, chacun a une profession qui lui est propre, chacun est expert dans son domaine, c'est pas pour rien. Donc en fait, quand tu as besoin de l'expertise de quelqu'un, t'es pas censé pouvoir le faire tout seul. Moi, je sais que, par exemple, si j'ai un objectif extrêmement ambitieux, si je me dis « Ok, vraiment, je travaille pour la carte pro », bien entendu que c'est impossible de le faire tout seul. Et c'est comme si, je sais pas... Moi, je bricole un petit peu, tu vois, mais si demain je dois casser un mur et refaire la maison, c'est pas moi qui vais le faire, tu vois. C'est exactement pareil.
C'est ça. Et du coup, je voulais terminer sur, on va dire, le tout cet aspect compétition. Je voulais juste terminer cet échange par qu'est-ce que tu conseilles pour quelqu'un, imaginons quelqu'un qui est dans la muscu, qui a un bon niveau, alors que ce soit femme ou homme, parce que je pense qu'on peut faire le parallèle pour les deux sexes, quelqu'un qui veut se lancer dans une compétition disons, dans quelques... Bah, justement, c'est un des aspects, parce qu'il ne faut pas être trop non plus trop se précipiter, mais quelqu'un qui voudrait faire une compétition un jour, qui a actuellement un bon petit niveau en muscu, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire actuellement pour voilà, se mettre dans les meilleures dispositions et éviter des erreurs?
Bah, déjà, d'énormément se renseigner. Donc, par exemple, d'aller se rendre sur une compétition pour voir comment ça se passe. On a la chance maintenant qu'en France, t'en aies de plus en plus. Donc, tu peux aller voir. Tu peux aller voir, peu importe la fédération, hein, tu peux aller voir des compétitions IFBB, tu peux aller voir AFBBN, t'en as en WABA, t'en as des compétitions naturelles. Maintenant, on a NPC. Donc, vraiment, de se rendre sur le show et de voir si vraiment c'est quelque chose qui va le hyper. Parce que tout l'aspect qu'on voit sur Instagram, l'aspect prépa, etc., c'est bien, mais il faut avoir aussi le cran de monter sur scène, c'est-à-dire de s'afficher devant tout le monde, que ce soit en bikini, que ce soit en string, peu importe, il faut voir. Et après, de ne pas hésiter à se renseigner, peser le pour et le contre, c'est-à-dire de vraiment essayer de décortiquer toutes les informations qu'on a pour voir si tu as du bullshit ou pas, et après de parler. Vraiment, de ne pas hésiter à aller voir les athlètes, de leur poser des questions. Je pense que chacun est accessible, en fait, un peu importe les gens, la notoriété qu'ils ont sur les réseaux, tu as toujours le moyen, en fait, d'échanger et surtout de bien choisir son préparateur. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est comme quand tu vas choisir un chirurgien, quand tu vas choisir un artisan pour ta maison, mais il faut absolument qu'en fait, tu aies une totale confiance en ton préparateur et que les échanges se passent au mieux. Parce que mine de rien, tu confies quand même les clés de ton corps, donc de ta santé, à quelqu'un. Donc, c'est pas anodin.
C'est ça. Et voilà, c'est vrai que c'est, comme tu l'as dit, on est revenu souvent sur ce sujet, pardon, du préparateur, mais c'est vrai que c'est très important. Et qui plus est dans le body, où c'est pas seulement... par exemple comme dans d'autres sports quelqu'un qui va te préparer pour de la technique pour quelque chose, c'est aussi quelqu'un qui va gérer voilà, ta nutrition et donc ta santé, donc voilà, c'est pas parce que la personne a un gros palmarès que c'est quelqu'un de compétent. C'est vrai que ça, je pense que c'est peut-être l'erreur que t'as fait la première fois, c'est que t'as pris quelqu'un qui avait un pédigré et un certain palmarès mais qui avait des méthodes qui te correspondaient pas forcément, en tout cas à toi, peut-être que ça correspondait à certaines personnes, mais ça te correspondait pas, et comme tu l'as dit, tu confies ta santé à quelqu'un, donc c'est très important, surtout dans le body où tu vas quand même mettre ton corps vraiment à rude épreuve pour avoir la meilleure shape possible, donc effectivement, je pense que tu as bien résumé les conseils par rapport à tout ça, et puis ensuite, comme tu l'as dit, peser le pour et le contre, savoir si, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut pas faire si on n'est pas réellement passionné, on peut pas juste se dire comme ça, parce que c'est vrai que j'en vois des gens comme ça qui se disent, bon, j'aimerais bien faire une compétition un jour, tu vois, juste comme ça, et c'est vrai que faut vraiment avoir cette passion pour le sport, pour bah voilà, cet art, parce que c'est un mi-chemin entre l'art et le sport, effectivement, et pas juste se dire comme ça, j'aimerais bien en faire une, parce que bon, de toute manière, je pense que les gens qui disent ça juste comme ça, ils en feront jamais, mais voilà, il faut vraiment être passionné et voir le temps que ça va nous prendre et l'énergie que ça va prendre, et bah, justement, sans passion, ça marchera pas, je pense.
C'est exactement ça, en fait. Il faut vraiment être conscient que voilà, ça va avoir un impact sur ta santé physique, mais aussi sur ta santé mentale. C'est-à-dire que si t'as clairement, hein, je reviens encore à ça, mais si t'as un mauvais préparateur, il peut détruire la santé aussi bien qu'il peut, il peut te détruire en fait mentalement. C'est-à-dire que si tu tombes sur un espèce de manipulateur ou autre, tu peux être ramassé à la petite cuillère. Mais voilà, je pense que c'est important de voir tout ce qu'il va y avoir à faire et d'être conscient de tous les sacrifices, qu'ils soient, je sais pas, financiers, alimentaires, personnels, professionnels ou autres. Parce que souvent, moi, j'ai des gens qui viennent me voir en coaching et qui me disent « Ah, j'aimerais bien faire une sèche. » Mais clairement, non, t'aimerais pas faire une sèche, en fait. je peux te dire que non, clairement, tu n'aimerais pas faire une sèche. Tu veux peut-être perdre un petit peu de masse grasse, mais faire une sèche, tu ne voudrais pas. Donc, c'est important de remettre les choses dans son contexte et de mesurer l'importance et le poids des mots. C'est-à-dire que moi, voilà, j'ai un bagage littéraire, un bagage en sciences de la langue. Je fais extrêmement attention aux mots que j'emploie. Et les mots, il ne faut pas les priver de leur sens. Aujourd'hui, le mot compétition, il est dans le vocabulaire de chacun. Le mot sèche, le mot prise de masse, etc. Mais c'est vraiment vidé de son substrat, en fait, en termes de sens, on va dire. La sémiologie est extrêmement importante. Donc, voilà, je pense qu'il faut être vraiment bien renseigné et se sentir extrêmement concerné et impliqué.
Bon, bah écoute, je pense que tu as bien résumé le sujet. Je pense que tu as vraiment bien répondu, voilà, très pertinente pour cette question-là et vraiment mettre en garde les gens parce que je pense que c'est important aussi de faire un peu de prévention quand on aborde ce genre de sujet et surtout quand c'est bah, par exemple quelqu'un qui a fait une erreur. Voilà, moi j'ai fait des erreurs, je pense que tu en as fait, on en fera peut-être d'autres, mais prévenir les gens parce que c'est aussi notre métier hein, pour éviter qu'ils fassent ces erreurs-là. Et leur faire gagner du temps et évidemment, encore plus important, là, prévenir pour leur santé parce que c'est très important. Bah écoute, je te remercie, Marine, pour cet échange. C'était super intéressant. Je pense qu'on a abordé un sujet qu'on n'avait pas encore abordé réellement dans le podcast sur les compétitions. Donc, on a élargi un petit peu, mais spécifiquement les compétitions en bikini. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter?
Non, je pense que la plupart des choses ont été abordées, comme tu le disais.
D'accord, bah écoute, c'est top. Dans tous les cas, vous pourrez retrouver Marine. Je mettrai dans la description le lien de ses réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcast, etc. Vous pouvez retrouver son compte dans la description. En tout cas, Marine, je te remercie encore une fois pour cet échange-là et pour ton expertise sur le sujet. Je te souhaite une très bonne journée et vous aussi. Et je vous dis à plus tard. Salut à tous. Merci pour votre écoute. Sachez que ce podcast est disponible en vidéo sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer ou Apple Podcasts par exemple. Donc pensez à vous abonner pour ne rien louper des prochains podcasts. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut à tous!